Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Vous êtes sur RMC, à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT, à la télévision. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Mathilde Himmer. On vous attend également très nombreux au 32-16 pour réagir et bien à ce coup de gueule finalement de l'ordre des médecins. 27 millions de rendez-vous médicaux non honorés chaque année. Est-ce qu'il faut faire payer les patients qui ratent leur consultation? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. Il y aura bien sûr à 14h30 RMC s'engage pour vous. On tentera d'aider des clients de la banque en ligne Revolut. Ils ont été victimes de fraude et ils n'arrivent pas à se faire rembourser. Et puis on terminera, Rémi, comme chaque jour, avec les immanquables.
Oui, et on parlera notamment d'une nouvelle action envisagée par la CGT Énergie contre la réforme des retraites. On sait qu'ils voulaient viser des élus, notamment, leur couper le courant maintenant. Ils visent d'autres opérations, des opérations Robin des Bois.
Ah, ça c'est bien.
Gratuite, et oui, enfin
c'est illégal. Ça c'est bien.
C'est bien, mais c'est illégal.
Ça, c'est bien. Ça, on est tous d'accord.
C'est bien, mais c'est illégal.
Oui, mais d'ailleurs, oui, mais si c'est bien, Rémi.
Voilà. Mais c'est très moral, mais c'est illégal. On en reparlera
tout à l'heure.
RMC Estelle Midi.
14h02 dans Estelle Midi. On va s'intéresser à la colère du jour. C'est celle de l'Académie nationale de médecine qui veut lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés. 27 millions par an au total. Cela représente 2 heures chaque semaine pour les médecins. Le Conseil de l'Ordre appelle donc à prendre des mesures, Rémi.
Oui, d'abord d'avertir et de sanctionner s'il le faut. D'abord en sensibilisant donc et en responsabilisant le public par des campagnes d'information. C'est ce que dit le Conseil de l'Ordre national des médecins dans un communiqué. Mais il y a une autre possibilité envisagée par le Conseil de l'Ordre, en tout cas une recommandation qui est faite, c'est de modifier le code de la santé publique et de permettre désormais de responsabiliser les patients sur les rendez-vous non honorés. C'est ce qui est dit en clair, qu'ils puissent, ces patients, être sanctionnés.
Oui.
Le fléau que constituent les rendez-vous non honorés, l'État en a pourtant pleinement conscience, ce n'est pas possible. Ces mots-là, ils ont été prononcés par Emmanuel Macron lors de ses vœux tout récent, aux soignants, c'était le 6 janvier dernier. Et le chef de l'État a ajouté, comme la santé n'a plus de prix pour beaucoup de nos compatriotes, et c'est tant mieux, eh bien, elle n'a plus de valeur. Trop de temps médical est gaspillé par un excès d'imprévoyance, de la désinvolture, avec en particulier ces rendez-vous non honorés. Le chef de l'État a alors annoncé qu'un travail serait engagé avec l'assurance maladie pour responsabiliser les patients et supprimer cette perte sèche de temps médical. Ce constat, il n'est pas nouveau. Hein. En juin dernier, 2022, le rapport de la mission Flash sur les urgences et les soins non programmés recommandait déjà de réfléchir aux moyens de lutter résolument contre les rendez-vous non honorés. Lors de l'enquête, les médecins avaient notamment suggéré de mettre en place le prépaiement, pourquoi pas, une pénalité financière, ou alors de dresser une liste rouge des patients qui multiplient ces rendez-vous non honorés.
Certains le font.
Selon un récent sondage Odoxa, 15% des Français, mais 3 jeunes sur 10, avouent avoir déjà posé un lapin à leur médecin, dont 6% plusieurs fois.
Alors, faut-il faire payer les rendez-vous non honorés? On sera avec Jérôme Marty, tiens, dans un instant, le médecin des GG. Je vais commencer avec vous. Emma, comme vous avez 4 enfants, il y a beaucoup de rendez-vous.
On y passe du temps. Non, mais bien évidemment. Enfin, bien évidemment. C'est même étonnant qu'on ait pas fait ça avant. Alors, moi, je suis dans, voilà, c'est comme souvent dans la campagne française, c'est une maison médicale, avec 2 médecins généralistes. Et Dieu sait qu'on a eu du mal à faire venir le deuxième. C'est presque de l'abattage, ce qu'ils font, parce qu'ils ont quand même beaucoup de villages à gérer. Et oui, bien évidemment, moi j'adore cette histoire de prépaiement. Et d'ailleurs, quand tu prends rendez-vous en ligne sur Doctolib, et si tu fais en visio et non pas en présentiel, tu donnes déjà ta carte. Effectivement, t'as déjà prépayé. Moi, ça ne me choque pas du tout. Il y a un énorme manque à gagner. Et je me demande, en écoutant Rémi, si c'est justement le fait que c'est devenu beaucoup en ligne, les prises de rendez-vous, pas tout le temps, mais tu as cette possibilité-là. Et finalement, on est dans une espèce de d'univers de consommation. Et finalement, tu achètes ton rendez-vous et puis finalement, t'y vas pas. Et t'es pas d'accord avec ça.
Ce qui est quand même dingue avec les rendez-vous en ligne, c'est que t'as les rappels.
Eh bien, t'as des rappels tout le temps.
Donc, si t'y vas pas, c'est que
alors, vraiment... Non, mais si t'as décidé de pas y aller parce que, je sais pas quoi, t'as plus besoin. Non, il suffit d'annuler, mais je suis d'accord. Mais
je vais te donner un exemple. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a un mois. J'avais pris un rendez-vous pour un de mes enfants. Finalement, la veille, il était pas bien. Et le lendemain, ça allait. Donc, je me dis, je vais pas aller déranger le médecin pour ça. Donc, j'avais pris rendez-vous sur Doctolib.
Je pouvais pas.
J'essaie de téléphoner. Impossible de les joindre. Et je suis en panique. Je me dis, attends, mais je peux pas, dans mon émission, faire des trucs sur les médecins et ne pas y aller. C'est impossible. Donc, résultat, j'y suis allée. En fait, je me suis déplacée chez le médecin. Pour annuler, en fait. Mais là, ça devient kafkaïen, parce que c'était impossible de les joindre. Donc,
mais sur Doctolib, tu peux annuler en ligne,
non,
je comprends
impossible.
Pas.
Là, c'était les rendez-vous qui ne sont pas annulés.
Ah oui, il y en a certains. Effectivement.
Tu te retrouves à aller chez le médecin pour annuler.
Chez des spécialistes.
Parce que t'as honte, en fait, d'annuler un rendez-vous. Mais ça, à la fois, c'est facile, et à la fois, ça devient hyper compliqué, quoi.
Non.
Mais après, faire payer, t'as des gens qui peuvent payer. Et en fait, les gens riches, ils s'en foutent de payer 25 euros s'ils y vont pas. Et puis, des gens pauvres, ça va être compliqué pour
eux. Ouais, mais bon, tu annules, comme ça, tu t'as pas tes 25 euros qui partent, hein. De toute façon, en plus, ça t'est remboursé. Enfin, franchement.
Alors, si c'est annulé, il faut pas que ce soit remboursé.
Bah voilà, non, mais c'est ça. Alors, c'est ça qui manque dans l'histoire. Est-ce que c'est remboursé ou pas?
Si c'est annulé, ça ne va pas, en fait.
Ah ben, je suis d'accord. Il faudrait pas. Il faudrait que ce soit punitif. Mais les Français, tant que tu touches pas leur portefeuille, ça leur fait pas mal. Donc, à partir de ce moment-là, ça va peut-être un petit peu réduire cette énorme perte, finalement, avec les chiffres qu'a annoncé Rémi, quoi.
Mathilde Zimmer, est-ce que c'est normal de faire payer quelqu'un qui rate un rendez-vous et qui prend la place de quelqu'un d'autre? C'est ça le problème, en fait.
Moi, j'avoue que je suis choquée par les proportions. Les chiffres que tu as annoncé, Rémi. Je pense que le côté internet joue en effet et le rapport au temps qu'on a aussi, où tout va toujours un peu plus vite. Moi, ça m'est arrivé de décaler plusieurs fois un rendez-vous médical. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu aussi de quand est-ce que c'est fait, en fait. Peut-être que si on pourrait imaginer un système où on prévient un jour ou deux jours à l'avance, qui permet au médecin de trouver quelqu'un d'autre, à ce moment-là, on est remboursé du prépaiement, ou alors il y a une retenue de 2-3 euros. Oui. Avoir un système un peu nuancé et intelligent de type-là, pourquoi pas? Mais en effet, moi, je trouve que quand ça arrive dans ces proportions-là, il y a un enjeu de respect, en fait.
Il y a un enjeu d'éducation.
Ça, d'éducation, bah oui, d'éducation. De politesse.
Ouais. Après, je dis ça et en même temps, un imprévu peut toujours arriver. Donc, faut pas non plus faire une règle où.
Mais au moins, tu préviens. Là, on parle de rendez-vous, les personnes n'ont même pas prévenu.
Je crois qu'il n'y a pas d'histoire d'imprévu dans cette histoire-là. On est vraiment sur de l'abus total.
Exactement. Ouais.
C'est des gens qui vraiment, s'ils ne préviennent même pas qu'ils ne seront pas là.
Ils viennent pas.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça arrive.
C'est du temps perdu.
Et ça représente 2 heures en moyenne de temps pour les médecins chaque semaine. On est avec Béatrice qui nous appelle de Paris et qui est secrétaire médicale, justement. Bonjour, Béatrice.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Eh ben merci d'être avec nous parce que ça va nous faire un retour d'expérience intéressant. On se disait que c'était peut-être Doctolib finalement qui favorisait le fait que bon, comme tout est à disposition, finalement les gens ils y vont pas, ça les gêne pas. Est-ce que quand on a quelqu'un au bout du fil comme vous qui êtes secrétaire médicale, est-ce que ça change un peu les choses ou pas du tout?
Non, ça change pas. Moi, je travaille avec mon mari. Hein, il est chirurgien orthopédiste. Mmh. Il a entre minimum 3 rendez-vous par jour non honorés, des rendez-vous d'une demi-heure. C'est arrivé à monter à
3 rendez-vous par jour.
Oui, par jour, des rendez-vous d'une demi-heure. Donc, ce qu'on avait décidé de faire là ces dernières semaines, ils ont des rappels des patients par Doctolib, c'est d'envoyer nous-mêmes des SMS en leur demandant de confirmer. Ouais. Et s'ils répondent pas aux SMS, parce que parfois on peut se dire bon, il y a des gens qui ont des problèmes, qui savent pas bien lire, qui comprennent pas bien, donc je les appelle, je laisse des messages, ils rappellent pas, ils viennent pas, ils rappellent pas. Donc on supprime les rendez-vous et quand on supprime les rendez-vous, et ben on se fait insulter ensuite, quoi.
Mais est-ce que vous pouvez faire, Béatrice, une liste rouge de vos patients quand ils viennent pas?
Sur Doctolib, maintenant on les bloque effectivement. Vous savez qu'il y a même des patients qui ne viennent pas le jour de l'opération au bloc opératoire.
Mais non.
Sans s'excuser.
Oh. Enfin, c'est quand même.
T'as mobilisé une équipe, le mec il vient pas.
Non mais vas-y.
Et alors, ce que j'expliquais également dans mon message, c'est que la pénalité, pourquoi pas, mais si elle est symbolique, ça remplace pas le temps perdu du médecin qui a ses charges à payer. Mais également, il y a quand même une grosse partie des gens qui ne viennent pas, qui sont bénéficiaires de la CMU ou d'aide médicale d'État. Donc, de toute façon, vous pourrez pas les pénaliser.
Oui, parce qu'en fait, ils ne payent pas. Mais oui, mais enfin, vous pourriez quand même peut-être retenir 2-3 euros. Évidemment, vous n'allez pas leur faire payer 25 euros s'ils ne peuvent pas déjà payer leur consultation. Mais il peut y avoir quand même une pénalité symbolique.
Pénalité symbolique, je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
Bah écoutez, merci en tout cas Béatrice d'avoir été avec nous. C'est assez édifiant ce témoignage. Béatrice qui est secrétaire médicale, et vous avez plein de messages Rémi sur l'application RMC.
Nombreux messages effectivement de personnes qui témoignent, comme par exemple Michel qui nous dit que lui il a été secrétaire. Il ne l'est plus aujourd'hui, mais secrétaire médical dans un cabinet pour médecins. Il dit il a vu assister à des comportements incroyables. Parfois, je par énervement, je rappelais même les patients en sachant très bien qu'ils ne répondraient pas et qu'ils n'étaient pas venus de pleinement conscients, et que de toute façon, ils ne décrocheraient même pas pour s'expliquer.
Alors, notre invité sur ce débat, c'est Jérôme Marty, bien sûr, médecin généraliste des Grandes Gueules, médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne, et président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour Jérôme.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous, Jérôme, ça représente quoi pour vous par semaine le nombre de rendez-vous annulés ? Enfin, pas annulés, mais non honorés, pardon.
Oh, c'est entre 1 et 3 par jour, quoi, de façon tout à fait régulière. Et au niveau national, c'est 27 millions, vous avez dû en parler. C'est ouais. L'équivalent de 4 000 médecins sortis des soins chaque jour.
Non, mais c'est énorme.
Donc c'est énorme, effectivement. Et si tu compares au nombre de passages aux urgences, il y a 24 millions de passages aux urgences chaque année, il y a 27 millions de rendez-vous non honorés. Donc quand on vous dit qu'il y a 10 à 15% de gens qui n'ont rien à faire aux urgences, on voit bien que si on règle ce problème, on règle l'autre.
Mais c'est ça. Mais le chiffre est fou, hein, parce qu'on savait qu'il y avait des rendez-vous non honorés, mais avec ce chiffre-là, il est dingue. Mais Jérôme Marty, est-ce qu'il y a un profil du patient qui n'honore pas ses rendez-vous ?
Ouais, c'est surtout, alors on va penser aux patients, souvent on nous dit oui, mais c'est des gens qui sont sans ressources, etc. Non, les gens sans ressources, ils respectent le soin. Hein, c'est surtout des gens des actifs entre 25 et 35 ans, où les deux travaillent, où ils vivent à 2000 à l'heure, quoi, et où ils consomment le soin comme un produit commun, quoi. Donc c'est tout le problème. Et donc quand le gouvernement, et on sait qu'il y travaille dessus, projette de lancer une grande campagne d'éducation à la santé en quelque sorte, en rappelant aux gens le civisme et l'importance de ne pas voler en quelque sorte des rendez-vous à d'autres patients, ben au fond on sait que sur ces gens-là, ça va pas avoir grand poids, quoi. Hein, ça changera pas grand-chose. Donc il faut les deux choses. Il faut à la fois communiquer. Et puis il faut trouver un moyen de pénaliser les patients qui ne respectent pas le système en quelque sorte en volant des rendez-vous.
Perico Légas, vous trouvez que c'est une bonne chose de pénaliser les patients, parce que effectivement, parfois Mathilde le disait, il peut vous arriver, vous pouvez oublier. Enfin voilà, ça peut arriver quand même. Oui, oui. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas très malade, ça je l'entends. Si vous avez une appendicite, a priori vous allez y aller. Mais est-ce qu'il faut faire payer et tout le monde de la même manière ?
Alors non seulement je dis que c'est une nécessité, parce qu'il s'agit de la santé publique et d'un comportement social qui commence à prendre des proportions inacceptables. Et je suis depuis longtemps, et je le dis, pour le rétablissement ou l'établissement du carnet de santé. Qu'on sache ce que les gens font. Il n'y a pas que seulement que ce manquement.
Le carnet de santé.
Numérique, le carnet de santé, j'en ai marre des gens qui vont 10 fois chez le docteur dans la semaine et qui sont payés à chaque fois.
Et s'ils sont malades?
Non. Mais justement, le généraliste suivant voit, dit, vous êtes allé hier pour la même chose. Vous avez donc un diagnostic. Pourquoi vous venez aujourd'hui? Vous avez des personnes.
Ça, c'est le tourisme médical.
Voilà. Ça aussi, il faut le corriger. Et puis, je voudrais que dans le même temps, si on concède ça aux médecins généralistes, qu'il y ait une démarche déontologique contre les arrêts de travail abusifs qui sont accordés quotidiennement dans ce pays de façon absolument inacceptable. Pour un oui, pour un non, vous avez des gens...
C'est un autre débat, ça.
Ben voilà, donc non, je veux dire, il faut mettre de l'ordre dans la médecine, il faut que les médecins puissent compenser les rendez-vous non pris, ils ont le droit d'être dédommagés, ça m'est arrivé deux fois par erreur. J'ai dédommagé moi-même le médecin qui dit non, j'ai dit j'y tiens, par principe, voilà. Ensuite, les abus de rendez-vous où on a que ça à faire 5 fois dans la semaine chez le médecin, on ne le sait pas, donc le carnet de santé permet de le faire. Et surtout, voilà, moi je trouve que là, il y a des arrêts maladie qui apparaissent, on les connaît tous, des exemples.
Oui, bon.
Que les médecins, ils se plaignent là.
Eh ben, ils se plaignent, il a raison, on est tous d'accord.
Très bien,
là-dessus.
Qu'ils balayent un peu devant leur porte, voilà, il y a des abus, mais il y a des abus, il y a des abus.
Ouais, mais là, c'est pas le même sujet.
Ah, oui. Non, mais si, parce que est-ce que la fond. Bien sûr, il faut respecter les médecins.
Bah oui.
Ben, les médecins doivent aussi respecter des règles et des codes et se les imposer.
Oui. Ah, vous avez bien énervé Jérôme Marty, là.
Mais juste par Jérôme, qui lui est un. Je suis sûr qu'il a jamais.
Parce qu'il faut faire le tri entre les médecins aussi.
Le travail, c'est aussi le critère d'une société qui va mal, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, on est en post-Covid, là, en quelque sorte, à un moment de notre société où les gens sont épuisés, on le rencontre tous les jours, il y a un épuisement physique et moral. Et donc, il y a effectivement des arrêts de travail chez des jeunes, ce qu'on ne voyait jamais, et pour des périodes très courtes, c'est-à-dire de 2 jours, 3 jours, ce qu'on ne voyait pas auparavant.
C'est le jeudi et le vendredi
Pardon
lundi et c'est le jeudi et vendredi ou lundi au mardi, j'imagine?
Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un épuisement physique et moral avec des gens qui ne sont pas capables de faire face au moindre souci et qui donc vont demander un arrêt parce qu'ils sont totalement démunis par rapport à ce qui leur arrive alors qu'auparavant ils arrivaient à faire face. Et ça, c'est un fait sociétal. Il faut qu'on le regarde.
Et ceux-là, ils viennent au rendez-vous, quoi, du coup.
Oui, non, mais ils viennent au rendez-vous. Puis on peut pas, on peut, très, très franchement, Périgolégas, on va pas chez le médecin avec plaisir. On n'y a pas pour passer du temps. Oui, il y a des gens qui consomment, qui vont très souvent chez le médecin. Ça veut pas dire qu'ils n'ont rien. Ça veut dire qu'ils ont, ça reflète un mal-être. Et ce mal-être, il faut qu'on arrive à
bien
trouver
d'où il vient. Bien sûr, mais c'est payant à chaque fois. Voilà.
Oui, mais c'est payant à chaque fois.
Mais deux rendez-vous, ça va. Comme certains généralistes me disent qu'ils voient la personne 4 ou 5 fois, à la fin, ils ont dit c'est bon. Voilà.
Et puis, oui, mais on a tous des patients comme ça qui sont consommateurs de ressources, c'est certain, mais c'est pas la majorité. Ça, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la loi du genre.
Oui, et exactement. Les arrêts de travail de 15 jours, pas pour une torsion du pouce, voilà.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les rendez-vous non honorés.
Non, je dis que s'il faut soutenir les médecins dans le fait de facturer les rendez-vous non pris, il faut aussi que la médecine, la profession, fasse elle-même un effort sur la déontologie.
Alors, Jérôme, restez avec nous parce que je voudrais qu'on prenne Pascal en ligne. Pascal, il nous appelle de Saint-Nazaire, dans les Pyrénées-Orientales. Et alors, Pascal, vous êtes vraiment contre la facturation des rendez-vous non honorés. Hein. Expliquez-nous pourquoi.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Pascal.
C'est tout simple, quand vous allez chez le docteur, alors vous avez une obligation d'y aller, lui a une obligation de vous recevoir. Mais quand il a 2-3 heures de retard parce que ceci, parce que cela, qui c'est qui me paie l'après-midi perdu, moi j'ai eu. Oui. Parce que moi, je suis commercial, je suis sur le terrain, je prends sur mon temps de travail pour aller chez le Toubib. J'ai quand même pas posé une journée et perdre de l'argent. Mais quand il a 2-3 heures, je me lève et je m'en vais. Et moi, mon après-midi.
En effet.
Donc, je comprends que se faire planter, c'est pas drôle. Mais moi, quand un client me plante un rendez-vous, si j'ai fait 300 km pour aller le voir, je ne facture pas 2000 balles la visite, ni 25 euros la visite. J'ai perdu, merci, à bientôt. Il y a suffisamment de patients dans une salle d'attente pour que, il n'est pas honoré. Et suivant. Donc après, je peux comprendre, se faire planter, c'est pas drôle, parce que quand je me fais planter des rendez-vous, il n'y a pas de problème, c'est pas drôle.
Ouais, mais ils prennent la place de. Ouais, mais regardez, Pascal, si vous imaginez, par exemple, j'ai une angine, mais une grosse angine, et j'essaie de prendre rendez-vous chez Doctolib, chez le médecin, chez Jérôme Marty, et je peux pas prendre rendez-vous parce qu'en fait, il n'y a pas de créneau. Et vous venez pas au rendez-vous. Bah en fait, vous m'avez piqué mon créneau. Et moi, je suis malade et je peux pas aller me faire soigner en fait.
Ce raisonnement, il tient aussi pour d'autres professions.
Bien sûr que ça tient pour d'autres professions.
Le médecin qui prend un rendez-vous toutes les 15 minutes, il sait très bien que ça va être plus de 15 minutes. Alors, il sait très bien comment.
Mais tu peux pas prendre de rendez-vous sur Doctolib parce qu'il y a pas de créneau.
Même Jérôme Marty pourrait mieux répondre que moi. Enfin, si le médecin vous fait patienter une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas par amusement.
Il y en a sur 3 heures. Mais non, il joue pas au tennis.
Oui, mais exactement. C'est pourquoi. C'est parce qu'il est tombé sur un patient qui est venu pour consulter et dont le cas est plus important que prévu, il prend plus de temps.
Il raconte leur vie pendant 2 heures aussi.
Et puis aussi une densité de rendez-vous.
Jérôme Marty.
Il y a aussi une densité de rendez-vous à la journée, quelquefois un petit peu abusée.
En général, qui par essence est une médecine globale. Moi, il m'arrive au cours de ma consultation d'être appelé, par exemple, à la maison de retraite à côté parce qu'une personne âgée décompense. Voilà. Je vais avoir à cadrer sa décompensation, je vais avoir à organiser le transport, à faire venir le SAMU, à attendre que le SAMU arrive et à laisser partir la patiente une fois que le SAMU est arrivé. Ça me prend 1h15, 1h20. Et donc, effectivement, tout se décale. Mais le problème, c'est que le médecin n'est pas là pour faire de la médecine automatique au presse-bouton. C'est toutes ces choses-là. Donc oui, vous pouvez avoir du retard et des fois des rendez-vous qui sont repoussés. Mais si ça arrive à votre maman, vous serez content que le médecin ait pris son temps et qu'il ait repoussé ses autres rendez-vous. C'est comme ça, c'est l'imprévu de la médecine générale.
Oui, et puis j'imagine qu'il y a des rendez-vous qui sont simples si vous avez une entorse du genou, mais d'autres où si vous devez annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, vous n'allez pas le faire en 12 minutes, Jérôme.
Bien sûr, des consultations d'annonce, des choses comme ça. On a tous dans notre pratique des moments où l'on donne plus de temps aux patients. La personne dépressive qui arrive et qui a besoin de soutien, qui a besoin d'explications, etc.
On ne peut pas l'expédier en 10 minutes.
C'est beaucoup plus longue. Voilà, on ne peut pas l'expédier en 10 minutes, exactement. Mais oui.
Rémi, vous avez d'autres messages sur la PMC.
Des messages et puis j'ai des chiffres intéressants parce qu'il y a le Conseil de l'Ordre des médecins du Nord, le département du Nord, qui a fait une étude juste pour rajouter un petit peu. C'est 7,6% des rendez-vous non honorés en moyenne en France, y compris ce qui est dingue, dans les déserts médicaux. Hein, c'est un chiffre qui est valable partout. Ça fait perdre chaque année à chaque médecin en France. Ça le fait travailler 1h3/4 de plus. Chaque semaine, ces rendez-vous non honorés, alors qu'il aurait pu le passer avec d'autres patients. Et ça le fait travailler, chaque médecin, 16 jours de plus par an. Et il y a le président de Jean-Christophe Platel, qui est le président du Conseil de l'Ordre du Nord, qui dit « Il n'y a pas une explication, mais plusieurs. Mais ce qui nous ennuie, c'est ce que je qualifie de manque de respect. sans parler comme un vieux, mais dans le temps, il était respecté, le médecin, au même titre que l'instituteur ou que le curé. Et ça, ça s'est perdu.
Ça, ça parle à Péricolégas, évidemment. Jérôme Marty, vous, vous feriez payer de combien ces rendez-vous non honorés? Ce serait toute la consultation, donc 25 euros, ou peut-être 50 si vous obtenez gain de cause, ou ce serait 3-4 euros?
Il y a deux choses. D'abord, c'est un problème qu'on a mis à jour en 2018.
D'accord.
En 2018, on avait dit qu'il faut qu'il y ait un paiement qui soit symbolique, qui soit de 3 à 4 euros, et cet argent serait fléché vers un fonds pour la résolution des déserts ou des problèmes d'accès aux soins. Mais, entre-temps et depuis 2018, la problématique s'est acutisée, elle a augmenté, et on se retrouve aujourd'hui avec 4, 5 rendez-vous par jour. Et donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une perte financière importante pour chaque médecin, puisque même à 25 euros la consultation, si vous perdez 5 rendez-vous, ben vous avez paumé 125 euros, quoi. Donc c'est pas possible, quoi. Vous voyez. Donc il faut quand même qu'on regarde. Alors après, il faut mettre en œuvre la chose. Il faut changer le code de santé publique pour qu'on puisse facturer un rendez-vous non réalisé, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et puis il faut un problème qui est très important et dont personne ne parle jamais. En fait, on a un souci juridique. C'est la preuve du rendez-vous non honoré. On ne sait pas comment prouver qu'un rendez-vous n'a pas été honoré. Sur le plan juridique, je parle. D'accord. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est là-dessus qu'il faut se pencher.
Mais après, c'est vrai que quand tu vas au théâtre, tu prends des billets, si tu vas pas, tes billets, ils sont morts, en fait. Donc voilà, et on te rembourse pas, quoi.
La restauration fait aujourd'hui de la pré-réservation.
Exact, oui, mais pour les grandes tables. Ou alors dans les grands restaurants.
Attends, ça veut dire quoi? Tu payes avant?
Exactement. Si tu viens à 8,
ils prennent
exemple,
une empreinte de carte bleue.
Si tu viens à 8, ils prennent une empreinte de carte bleue et ils te disent, si vous venez pas, ce sera tant. Et il te retire ça sur
comme l'hôtellerie en fait. D'accord.
Exactement. On est avec Xavier qui nous appelle de Verneuil en Alatte dans l'Oise. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour Estelle. Ça fait plaisir.
Mais bien sûr, mais moi aussi ça me fait plaisir Xavier. Est-ce que vous êtes du genre à rater des rendez-vous, à poser des lapins au médecin Xavier?
Pas du tout. Pas du tout. C'est bien. Et je suis plutôt le genre, j'ai pas vu un médecin depuis plus de 8 ans.
Ah oui quand même. Oui. Ouais. Bah, donc vous ne gênez pas quoi.
Non, je ne gêne pas, la santé ça va, mais c'est vrai qu'il y a une notion qui a été abordée qui était la notion de respect. Mm-hmm. Aujourd'hui j'ai 38 ans, donc il y a les médecins, quand on était jeune, les médecins se déplaçaient encore à domicile, quand on était jeune chez nos parents. Aujourd'hui on prend un rendez-vous chez le médecin. Donc tout simple, je vais parler du médecin généraliste, soit pour nos enfants ou autres. On vous donne rendez-vous à 14h, vous rentrez dans le cabinet de votre médecin aux alentours de 16h.
Ouais, c'est ce qu'on a expliqué, ouais.
Donc, la notion de respect doit aussi être réciproque. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, en tant que commercial, je donne rendez-vous à mon client à 14h. Si j'arrive à 14h30, je le préviens.
Mais c'est ce qu'on disait dans ce cas-là.
Oui, mais c'est ce qu'un autre commercial vient de nous dire, en fait.
Mais oui, mais et le problème, c'est que le jour où vous arrivez devant votre médecin, il dira, j'ai 10 minutes pour vous, pas une minute de plus, parce qu'il y a quelqu'un qui attend derrière.
Ouais. Et puis vous avez un cancer, mais j'ai pas le temps de
dire. Bah oui, mais c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Oui, c'est un cancer, mais c'est 10 minutes. C'est comme ça.
Le débat peut s'arrêter assez rapidement, parce que quand on est en salle d'attente et qu'on arrive à 14h, on est pris à 16h. Je pense pas qu'il ait quand même passé 3 heures avec un seul et même patient.
Non, mais souvent, vous avez aussi la secrétaire qui peut vous appeler parfois et vous dire, attention, je préfère vous prévenir. Genre, il est 10h, vous avez rendez-vous à midi et elle vous appelle, elle vous dit si vous avez des courses à faire dans le quartier, ou elle vous dit il aura au moins 45 minutes de retard. Oui. Il y a ça aussi à faire.
Là-dessus, c'est ça, le souci est un peu là-dessus. Parce que nous, aujourd'hui, moi, en tant que commercial, j'ai pas de problème. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin. Je suis pas forcément obligé de poser 1h, 2h ou une après-midi. Mais pour la personne qui dit à son employeur aujourd'hui, et ça m'est déjà arrivé, pour les enfants, de dire à son employeur, ma femme plutôt, de dire à son employeur, est-ce que je peux m'absenter 1h ou 2 pour aller amener mon enfant chez le médecin? Finalement, ça dure l'après-midi. On est obligé de poser une après-midi entière pour un rendez-vous médical. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, j'essaye de comprendre, et si quelqu'un peut y répondre, quand un médecin vous donne rendez-vous à 14h, je parle d'un généraliste de campagne ou de ville, il est incapable de vous prendre avec au moins 2 heures de retard minimum.
Mais ça dépend, mais après Jérôme Marty vient de l'expliquer. En fait, il a expliqué que tous les cas étaient différents et quand vous vous rendez effectivement dans une maison de retraite
et
que ça vous prend 1h20,
ça c'est un cas de force majeure. Je parle de médecins qui prennent à la suite dans leur cabinet, qui compriment pour faire un peu plus de chiffre d'affaires, qui compriment. À un moment donné, le dépassement des 10 premières minutes. À la 8e visite, il est de 40, 60, 80, 80, oui, là. Et donc, ceux qui arrivent en dernier...
C'est pour ça qu'il faut toujours prendre rendez-vous à 9h.
Ouais. Donc là aussi, et j'ai vécu la situation souvent, et un jour, je me souviens, j'ai claqué la porte, je suis parti, il m'a rattrapé dans la rue, il m'a fait revenir, il y avait 2h30 de retard. Je lui ai dit, prévenez-nous, nous aussi on travaille, voilà, je comprends très bien. Voilà. Donc aux médecins aussi, il y en a quelquefois... Non mais c'est tout, il y en a qui abusent, c'est tout. Il y en a
le respect des deux côtés, c'est ça que tu veux dire.
Des deux côtés, voilà.
Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Marty?
Non mais... je ne sais pas quelles sont ces généralités. Moi, ce que je sais, c'est que l'immense majorité de mes
confrères. Il n'y a pas de généralité aujourd'hui, évidemment.
L'immense majorité de mes confrères et confrères travaillent sur rendez-vous. Les soins non programmés sont une minorité. C'est ce qui pose problème, d'ailleurs, pour l'accès aux soins, parce que les carnets de rendez-vous maintenant sont pleins. Et c'est pour ça que vous avez cette fameuse réflexion qui n'existait pas auparavant, qui est apparue, c'est je prends plus de nouveaux patients. Avant, ça n'existait pas.
Ah oui, tout le temps.
Parce que les gens travaillent sur agenda.
Bien sûr.
Donc on a moins de retard que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les gens qui ne peuvent pas accéder aux médecins. Vous avez des gens qui sont dans la précarité, qui ne peuvent pas se permettre de perdre, entre guillemets, une après-midi, parce qu'ils sont dans des zones qui sont mal desservies, il n'y a qu'un bus par jour. Donc ça veut dire que quand ils partent à la ville, en quelque sorte, voir le médecin, ben, ça leur prend une journée. Et comme ça leur prend une journée, ben, ils n'y vont pas. Et ça, c'est dramatique. Ouais, c'est ça qu'il faut regarder.
Bien sûr, bien sûr.
On va terminer avec Johan, qui nous appelle de Pugéville, dans le Var, et qui est infirmier libéral. Bonjour, Johan.
Et bonjour, bonjour à tous.
Vous aussi, vous avez beaucoup de plantades, Johan ?
Ça arrive régulièrement. Hein. Le patient qui ne me prévient pas qu'il n'est pas chez lui, voilà, je viens pour rien. Et justement, ça pose un problème, c'est que moi, quand j'y vais pour rien, je ne peux pas me facturer parce que je n'ai pas fait de soins. Donc comment on va justifier qu'on donne une somme d'argent aux médecins alors qu'ils n'ont pas vu le patient ? C'est compliqué puisque il n'a pas fait d'acte de soins. On prend quelle somme ? Et en plus de ça, comment on va justifier ? Parce que j'entendais la liste rouge, le carnet de santé. Il y a des patients qui sont psy, qui vont chez le médecin 10 fois par semaine. Mmh. On va leur dire quoi ? Ah ben maintenant vous payez ? C'est très compliqué comme débat.
Comment, Johan ?
Alors on fait comment ? On prend une somme, mais à l'État, pas au médecin.
C'est ce que propose le Conseil de l'Ordre national des médecins. Il dit on facture l'acte au patient qui n'est pas venu, une partie de l'acte par exemple. Le paiement est fait au médecin par l'assurance maladie. Ouais. Donc c'est voilà. Et ensuite, lorsque le patient retourne un jour chez le médecin, ça lui est surfacturé par l'assurance maladie.
Vous faites une plateforme similaire à Doctolib, où vous faites une empreinte de la carte bleue qui sert de caution. Vous pouvez régler plein de choses, c'est-à-dire les créneaux horaires des médecins par tranche de demi-heure. Vous avez le caution, il vient pas, c'est automatiquement prélevé. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut uniformiser, mais on peut pas dire oui, mais les patients, ils ont pas le temps. C'est de la politesse. Les gens ne sont, c'est pas de l'argent, c'est de la politesse. Ils ne préviennent pas. Donc, on les punit, point barre. Il n'y a pas d'excuse farfelue à dire oui, mais vous comprenez, j'ai pas le temps. Voilà, on peut régler plein de choses.
Sauf que si on fait une plateforme, y a tous les gens qui passent pas encore par les plateformes qui vont passer sous les radars avec cette histoire-là.
Ouais, mais on pourra pas les rattraper. Bien, malheureusement, il faudra bien faire quelque chose. Merci Johan, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jérôme Marty. Vous êtes content, Jérôme, avec le résultat de notre sondage qui vient juste de tomber, Rémi.
Oui, le sondage est très clair. Enfin, la réponse est très claire. Faut-il faire payer les rendez-vous médicaux non honorés ? C'est oui pour 77% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Et c'est plutôt pas mal pour vous, Jérôme Marty, parce que d'habitude, quand on dit est-ce que vous voulez payer, les gens disent non, quoi. Donc là, ils sont prêts à payer.
Ce n'est que justice, c'est tout à fait normal et logique à une période où il n'y a pas un seul Français qui n'a pas les difficultés d'accès aux soins.
Il faut augmenter la consultation, je suis d'accord aussi. Pas 50, mais 30 ou 35, ça serait la moindre des choses.
Merci beaucoup, Jérôme Marty, d'avoir été avec nous. Dans un instant, Élise Dangean, RMC s'engage pour vous. On va parler de la banque en ligne Revolut qui a des clients qui ont été victimes de fraude et la banque, elle ne veut pas les indemniser. Tiens, c'est incroyable. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h32 dans Estelle Midi, c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans l'émission. C'est l'heure d'RMC s'engage pour vous, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
On est avec Élise Dangean aujourd'hui. Et Élise, on va reparler de la banque en ligne Revolut, tiens donc. Cette banque qui a manifestement beaucoup de mal à rembourser ses clients victimes de fraude.
Je sais pas si vous vous souvenez, on avait mis plus de 2 mois pour récupérer les 15 000 euros de notre première auditrice, Alexandra, victime d'une fraude à la carte bancaire. Et on s'est aperçu qu'elle n'était pas la seule dans cette situation. Parmi les auditeurs qui nous ont écrit à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr, il y a Alison, une auto-entrepreneuse de 30 ans dont le compte Revolut a été complètement vidé en moins d'une semaine. Près de 80 000 euros au total, dilapidés en 6 virements vers la plateforme de paiement Paysafe et 10 cartes bancaires sur des sites de vente de crypto-monnaies. Premier réflexe d'Alison, contacter Revolut via son chat, c'est le seul moyen. La banque en ligne se montre alors rassurante et insiste. Les fonds sont bien là, lui dit-on. Vous ne pouvez juste pas les voir en raison d'un bug de l'application. Sauf que le lendemain, changement de discours radical, Revolut lui dit qu'en fait, si, son argent a bien été débité.
ça m'a vraiment affectée beaucoup, quoi. J'étais enceinte de 7 mois et demi. J'ai accouché en plus prématurément, tellement ça m'a stressée. C'est quand même toutes mes économies. Il y a un bien immobilier qui devait être acheté avec ça, qui n'a pas pu se faire. Je vais devoir régler 5% de frais au notaire. J'ai travaillé pour rien, quoi. J'ai travaillé, mis de côté. C'est le projet d'une vie qu'on avait et du coup, bah, tout est tombé à l'eau, quoi.
Et le pire dans tout ça, tenez-vous bien, c'est que Revolut refuse de rembourser au motif qu'aucun accès non autorisé à son compte n'a été trouvé. Alison conteste depuis le mois de juillet, plainte pour fraude à l'appui. Elle a écrit au service litige de la banque basée en Lituanie, mais rien n'y fait. La jeune femme reste dans l'incompréhension.
Un compte se vide en moins d'une semaine sur des gros montants comme ça, je sais pas, on avertit le client. Et là, ça n'a pas été le cas. Là, honnêtement, on a l'impression d'être laissé à l'abandon complet, quoi. Sur le chat, ils répondent même plus. Ils nous disent, voilà, je peux pas traiter votre demande et ça coupe. Quand il arrive quelque chose, il y a plus personne, quoi.
Ça paraît hallucinant, hein, ce que vous racontez, à Élise et ce que raconte également cette auditrice, mais. Quand vous appelez Revolut, parce que vous avez enquêté, vous les avez appelés, ouais, oui. Ils disent quoi en fait ?
La même chose que la première fois. Revolut se cache derrière le secret bancaire pour ne pas nous répondre sur le fond du dossier. On nous assure tout de même que des investigations plus poussées sont en cours, mais en gros, on laisse planer le doute. À croire que peut-être l'auditrice serait responsable en quelque chose. En attendant, l'avocate d'Alison a envoyé une mise en demeure à l'entreprise. De notre côté, on va relancer Revolut dès la semaine prochaine, puisqu'ils nous ont donné rendez-vous semaine prochaine. Donc, ça, on verra si on aura de nouveaux éléments ou si encore on brandira la fraude bancaire. On rappelle qu'en France, une personne est victime d'une fraude bancaire toutes les 4 secondes. Donc, c'est un sujet très important pour les banques et même les toutes nouvelles banques comme celle-ci.
Eh ben on espère en tout cas qu'il y aura du nouveau très vite pour Alison, parce que 80 000 euros, c'est une énorme somme. Et on espère qu'elle va pouvoir les récupérer, parce qu'il est pour rien en plus, quoi.
Absolument. Voilà,
et que Revolut va faire le nécessaire. Mais on va rappeler aussi que c'est quand même pas la première fois qu'on a des problèmes avec les banques en ligne ici dans cette émission, avec RMC s'engage pour vous. Et
tout à fait. Revolut n'est pas la seule, mais en l'occurrence également. Là, voilà, et le préjudice s'alourdit, quoi. On parle de 80 000 euros quand même. C'est pas anodin.
Je vais faire ma petite vieille, mais c'est pas la première fois qu'on a un souci avec les banques en ligne.
Oui.
On nous parle aussi d'avoir de l'argent uniquement sous forme virtuelle demain. Moi, je pense qu'il faut être un peu précautionneux et que ce genre d'exemple nous montre que finalement, avoir du liquide entre les mains...
80 000 euros, enfin, vous pouvez pas le mettre dans votre portefeuille.
Non, je parle pas des 80 000 euros. Je dis, tu sais très bien, et je crois que tu es favorable en plus, Estelle, qu'il y a un certain nombre de projets qui visent à supprimer l'argent liquide et qu'on n'aurait plus que de l'argent virtuel. Moi, ça me fait très peur, pour être honnête, parce que très rapidement, on peut arriver à des choses de ce type-là à plus grande échelle, quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais après, l'argent liquide, tu vois bien que c'est en tout cas, c'est de moins, faut pas le supprimer, mais il est de moins en moins utilisé.
Et là, le problème, c'est le contrôle des pouvoirs publics sur les banques en ligne. C'est les garanties que la France accorde à des usagers de banques en ligne. Il y en a pas.
Merci beaucoup Élise Dangean en tout cas d'avoir été avec nous tous les jours. RMC s'engage pour vous, c'est à 14h30 dans Estelle Midi. Et si vous avez raté la chronique d'Élise ou d'Amélie, eh bien vous n'hésitez pas, vous allez les écouter en podcast sur l'application RMC, sur rmc.fr ou sur vos applis de podcast. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il y a du très 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 lourd, Rémi.
Bernard Laporte s'en va et la CGT Énergie veut jouer au Robin des Bois.
Oui, ça on aime bien.
C'est bien.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Mathilde Himmer. Et dans cette dernière partie, vous le savez tous les jours, on vous donne les infos qu'il ne fallait surtout pas rater. C'est tout de suite, ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Arrête. Et on commence, Rémi, avec l'action du jour.
L'action du jour, après avoir réalisé des coupures de courant et même évoqué la possibilité de cibler ces mesures sur certains élus, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie s'oriente davantage vers des opérations plus positives de gratuité pour protester contre la réforme des retraites. Voilà. Discutées en interne depuis près de 2 semaines, ces actions ont été évoquées publiquement hier par Renaud Henry, le secrétaire général de la CGT Énergie Marseille. Il explique concrètement, notre objectif, c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que par exemple des boulangers puissent avoir un tarif de 50 à 60% gratuit. L'action, je le précise quand même, est totalement illégale.
Oui, mais ça c'est pas grave. Perico Légas, mais ça, voilà, ça c'est bien ça. Non, mais...
J'ai tendance à m'insurger contre ces abus de pouvoir d'un syndicalisme qui, voilà, prend en otage. Et là, je ne peux que me satisfaire. Comme quoi, tout est relatif. Et là, effectivement, je connais tellement la détresse de certains boulangers dont certains ont fermé la porte. C'est fini. Hein. Qu'effectivement, si la CGT peut mettre sa puissance syndicale et son engagement politique et syndical au service de ces causes-là, là, je suis entièrement d'accord. Les autres me diront, bah, si t'es d'accord pour ça, alors évidemment...
Exactement, il y a deux points de vue, Nico, tu peux pas être pas d'accord pour les mairies et être d'accord pour ça, même si moi aussi, j'ai évidemment envie qu'on donne l'électricité
non, parlais,
moins
cher.
C'est pas pareil. Mais là aussi, il vient de dire que c'était illégal.
Non, je parlais,
il vient de dire que c'était illégal, Rémi.
C'est illégal.
Tu prends personne en otage.
C'est illégal.
Oui, mais c'est illégal, d'accord.
Je parlais d'une coupure d'électricité générale, où je dis, là, vous êtes en train de pénaliser des travailleurs comme vous, machin, voilà, c'est pas normal, c'est un abus de pouvoir. Et là, il me dit, je vais les cibler, et on va essayer de soutenir les boulangers qui sont dans la détresse. Voilà, là oui, là bien sûr. Alors,
mais si tu ne pénalises pas les syndicalistes, c'est qui ferait ça? Très bien. Demain, il y a une grève à la SNCF.
Ah ben,
les contrôleurs décident de bien. Ne plus contrôler.
Bah, très bien.
Très bien. Les gens prennent le train gratuitement. Bah. Leur grève dure 4 semaines, un mois et demi. Imaginons, la SNCF se retrouve dans le rouge. Voilà. Et c'est notre argent qui va devoir enflouer.
Oui, mais là, c'est le boulanger, donc c'est pas ton argent, Zoff.
Il n'est pas aussi abusif.
Non, mais c'est ouvert, c'est la porte ouverte.
Okay. Oui, mais le tarif n'est pas aussi abusif.
Okay. La SNCF, un train n'a pas le droit de partir s'il n'y a pas de contrôleur à l'intérieur.
Donc c'est
la porte ouverte.
Donc c'est voilà. Non, moi, je évidemment qu'on a tous envie d'être Robin des Bois et de donner de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, évidemment. Mais à partir du moment où c'est illégal, c'est illégal. On peut pas avoir deux discours dans cette émission. C'est pas possible. Donc si c'est illégal pour les mairies, eh ben, c'est illégal aussi pour la CGT.
Le fournisseur se retournera contre le client à un moment donné.
Ouais, mais tu peux aussi te dire qu'il y a certains commerçants qui sont impactés par les mobilisations. Par
exemple, quand
t'es sur un trajet t'es boulanger, t'es sur un trajet de Bastille-Nation, a priori, tu vas vendre moins de croissants, hein,
ou
plus.
Oui.
Non, moins, parce que souvent, tu fermes ta boutique.
D'accord.
En espérant que la retrouver dans le même état le lendemain. Mais donc voilà, les aider, après, c'est pas mal. Et tu prends personne en otage. Si t'es le boulanger, le boucher du coin, c'est pas comme une mairie.
Et augmenter un petit peu le prix de la baguette. Faudrait qu'on ait vu que ça fait d'impôts pour payer son pain, ça serait compliqué.
Oui, on peut être d'accord avec la CGT sur ce plateau.
Je trouve ça assez incroyable. Non, mais en vrai, je trouve ça évidemment très bien. Mais ce qui me rend triste à nouveau, c'est qu'on ait besoin d'en arriver là.
Oui, bien sûr.
Comme les écolos là qui crèvent les SUV, que la CGT fasse ça, que les élus immobilisent la mairie pendant une journée pour la retraite. En fait, je trouve ça veut dire que notre démocratie ne fonctionne plus.
Malheureuse toute ta vie dans un système libéral où l'économie de marché règle.
Mais non, je crois qu'on peut changer ça. Je suis loin d'un discours fataliste. L'enjeu pour moi, c'est de reprendre la main et de montrer que c'est possible de faire différemment. Et ça demande du courage. Je pense que nos politiques n'en ont pas ou du courage d'apothicaire pour une réforme des retraites.
Aux élections.
Non. Exactement. Quand elles fonctionnent.
Rémi, on va passer à l'exclusion du jour.
L'exclusion du jour, Emmanuel Pellerin, député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, a admis avoir consommé de la drogue, notamment de la cocaïne, avant et après son élection en tant que député du parti présidentiel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre et Renaissance se prononcera sur son avenir au sein du parti ce lundi. Son exclusion sera examinée.
Faut le virer ou pas, Perico Légas?
Jamais j'ai fait ça dans cette émission, j'ai envie de dire Joker. Je sais que c'est interdit, vous ne supportez
c'est
pas
interdit.
Ça. C'est sa vie privée. Est-ce qu'il y a eu une incidence sur sa vie de parlementaire?
Bah alors c'est non, alors. Faut pas le suspendre.
Il a pas tapé sa femme?
Non.
Il a fumé un pétard?
Peut-être que si, mais on sait pas. Non, mais je rigole, mais non.
Non, mais bon.
Si, c'est intéressant ce qu'il dit. Il a pas tapé sa femme. Donc forcément, ça nous ramène à Adrien Quatennens.
Qui
est exclu à peine 4 mois, autant dire du pipi de chat. Et là, effectivement, il n'a fait du mal, j'ai envie de dire, qu'à lui-même.
Ça me regarde pas. Je vais vous dire, ça me regarde.
C'est pour ça que moi aussi, je suis embêté avec cette affaire.
S'il est venu dans un état, stupéfiant, qu'il a fait une arme, d'accord. Ouais. Pour l'instant, on n'a rien su et il avoue lui-même. Vous voyez dans quelle société on est? On est quasiment dans le système de la Chine.
Cela, c'est sa vie privée.
On est
obligé,
quand même.
Oui, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu, pareil, je suis comme toi, je suis un petit peu
en arrêt. C'est illégal, hein. Vous n'avez pas le droit de consommer de la cocaïne, c'est illégal.
C'est illégal.
On a connu à l'Assemblée des députés alcooliques qui arrivaient en état d'ébriété, qui faisaient d'ailleurs des discours, Pierre-André Vizier.
Mais c'est pas illégal.
Mais taper sa femme, c'est illégal, hein.
Et c'est pour ça qu'il est suspendu, mais voilà.
Pas de puritanisme institutionnel, je vous en supplie.
Bah oui, mais ça reste illégal, elle a raison. Hein.
D'accord.
Mais pour autant, on est un peu figé comme ça parce que.
Pas de morale. Pas de morale et pas de puritanisme.
Mais oui, mais le problème, c'est que si tu dis ce qui compte, c'est de la justice, pas la morale.
C'est
aujourd'hui,
bien.
Consommer de la cocaïne, c'est illégal.
Oui, alors il l'a dit, voilà. Alors, il a un blâme. On lui donne un blâme, ça vous va?
D'accord.
qui reviennent pas, attention, qui reviennent pas une deuxième
ou du sursis. Non mais je suis d'accord qu'évidemment ça n'a rien à voir avec taper sa femme.
Non,
c'est évident.
Il y a toujours
un
poids de mesure de toute façon.
On le suspend, on l'absout, on fait quoi, Mathilde Emma?
Moi, je suis assez d'accord avec Perico sur cet enjeu d'humble. En fait, pour moi, c'est plus une question d'éthique et de morale, de son rapport à lui-même par rapport au poste qu'il occupe. Est-ce qu'il a la dignité de vouloir rester et de changer de comportement ou de démissionner? J'ai envie de dire, ça le regarde. Moi, c'est quand on vient consommer ce genre de choses.
Il est allé voir un jour une prostituée.
Et pour être honnête, je pense qu'on sait tous autour de ce plateau que c'est loin d'être le seul dans le monde politique, bon, dans le monde des médias. Et donc, il y a peut-être aussi des questions sur pourquoi est-ce qu'autant de gens consomment dans ces milieux-là une telle coudre.
Je crois que cette consommation de cocaïne, elle est galopante partout en France, dans tous les milieux.
Si vous saviez.
Et notamment chez les jeunes. C'est pas juste dans les médias et la politique. Rémi, comment on a su d'ailleurs qu'il consommait de la cocaïne? Parce qu'il ne l'a peut-être pas dit sur les réseaux sociaux.
Non, en fait, c'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nanterre. Et donc son nom est ressorti dans la presse. De quelle manière?
Carreau, hein.
Voilà, mais forcément, il a été obligé de.
D'avouer, entre guillemets.
Vivement l'alcool sans alcool d'Anthony Morvan.
L'inquiétude du jour,
elle porte sur le label rouge. Ça va faire réagir Perico, je le sais. Oui. C'est lui d'ailleurs qui nous a alerté sur le sujet hier. La Commission européenne va changer les règles d'étiquetage des volailles. La filière française, elle, redoute que le fameux label rouge, spécificité hexagonale, n'y perde sa capacité à se distinguer.
Oui.
Selon l'interprofession française qui regroupe les représentants de l'ensemble des maillons de la filière, les labels de type fermier élevé en plein air ou encore fermier élevé en liberté pourraient disparaître pour être remplacés par des indications beaucoup moins précises.
Ça veut dire qu'en fait, on ne saura plus ce qu'on mange, Perico.
C'est quasiment une conquête sociale. Vous savez, il y a le poulet de batterie qui nous a envahis. Justement, il y a une filière française, les labels rouge, poulet de Louis, tout ça, c'était des marques, qui font un poulet sans qu'il soit absolument exemplaire. C'est quand même un travail énorme. C'est une conquête. L'éleveur, la souffrance animale, l'alimentation, les garanties d'environnement et surtout alimentaires qui sont formidables. Et là, c'est pas qu'ils sont supprimés, c'est que la Commission européenne, le 2 février, va ouvrir cette labellisation. En fait, il va la déréguler. Pourquoi ? Il y a des élevages industriels en Allemagne, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, qui sont concurrencés par ces labels de qualité française. Donc, faut casser cette concurrence qui les embête. Et donc, ils auront droit de mettre poulet à l'air libre.
Élevé à l'air libre.
Ça veut dire que le consommateur saura plus faire la différence entre un vrai label rouge français qui deviendra facultatif et non plus obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire.
Mais si vous mettez poulet à l'air libre, c'est qu'il est forcément à l'air libre.
Non, il n'y aura pas de contrôle. La Commission européenne va autoriser des sociétés étrangères à mettre un mot label qui n'est pas un label officiel. Alors, poulet à l'air libre, bah oui, il a la tête dans l'air, évidemment, l'air libre.
Non, mais c'est ça.
Il pourra se balader dans un truc en béton, voilà. Et donc,
le consommateur
n'aura pas l'information. Le label rouge continuera en France, mais il sera pas obligatoire. Donc, vous avez des filières qui ne mettront plus de label et les gens ne feront plus la différence. C'est une régression fatale. Tout ça pour faire plaisir aux Allemands. La France a essayé de résister et puis la pression, je pense qu'on a dû nous échanger ça contre un petit peu de gaz ou je sais pas quoi ou des chars léopards, enfin je peux pas le savoir, mais en tout cas c'est une régression dans la qualité alimentaire française qui était un combat formidable, un patrimoine, un acquis, et là les volaillers français qui se donnent du mal en plus frappés par la grippe aviaire, là il y en a qui vont payer, je trouve ça lamentable.
Et merci de nous alerter là-dessus Perico, mais c'est vrai que ça paraît incroyable en ce moment Mathilde, alors qu'on lutte justement pour le bien-être animal, pour le mieux manger, pour tout ça, et là en fait on a l'impression d'être revenu 20 ans en arrière, quoi.
Je sais pas si on est revenu 20 ans en arrière, mais c'est assez souvent qu'on a des mauvaises nouvelles, je trouve, comme ça pour nos agriculteurs et les éleveurs. Tous les accords commerciaux, TAFTA, CETA et consommateurs, évidemment, en bout de chaîne. Je le disais tout à l'heure, sur la question du bien-être animal, je crois qu'il y a un enjeu sur la question de l'élevage de manière plus générale. Et on n'arrive pas à avancer sur ce sujet et je le déplore et je suis assez d'accord avec Perico.
Ils veulent faire du fric facile.
En fait, je suis désolée, j'ai l'impression d'être en boucle pendant cette émission, mais ça, encore une fois, un enjeu de qui décide dans notre démocratie aujourd'hui.
Là, c'est
un certain nombre de lobbies qui sont vers les industriels allemands ou polonais, j'en sais rien. Font que notre réglementation régresse. Et le truc, c'est qu'on est dans un mouvement plus général où nos droits, nos réglementations régressent au profit de quelques intérêts privés qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent.
Et c'est une catastrophe pour les agriculteurs, évidemment.
Évidemment, parce qu'effectivement, ça va être un imbroglio pas possible. En fait, quand tu dis poulet élevé à l'air libre, j'ai fait quelques reportages dans la Bresse, au sud de Bourgogne.
Ou à l'air libre.
À l'air libre ou en liberté, en fait, ça veut pas dire tout dire qu'ils sont dehors. Ça veut dire qu'ils ont assez de place pour se déployer à l'intérieur, qu'ils sont pas à 12 dans une cage, ils sont que 10. Ils sont dans un grand hangar à l'intérieur, c'est très impressionnant à voir. Et c'est ça qu'on appelle à l'air libre. Ils sont pas du tout en train de picorer dehors.
C'est pas
alors
forcément ça.
En liberté, c'est carrément dehors, voilà.
Bah, ça le sera plus, de fait. Ça va
si
être
ça
un
continuera à exister,
des...
mais tu pourras mettre un poulet en batterie, tu pourras dire qu'il est à l'air libre.
Ouais, bah, voilà, c'est n'importe voilà. quoi. On va complètement se mélanger. Et l'information du consommateur, à l'époque, tu sais, on avait dit la dernière fois que les pulls, ils allaient avoir des étiquettes qui vont payer 3 tonnes. Parce qu'on allait avoir tout un tas d'infos. Et là, sur le poulet, on régresse. Enfin, le poulet et puis d'autres choses après.
De toute façon, il y a 80% du poulet qu'on consomme en restauration scolaire, notamment, qui est du poulet.
C'est sûr. Pour pas être fataliste, il y a aussi l'initiative qui émergent, qui sont très intéressantes. Je pense à C'est qui le patron, par exemple, qui est une coopérative de consommateurs qui pose eux-mêmes les critères, le prix. On sait du coup en toute transparence qui a décidé, qu'est-ce qui a été décidé, le prix, et c'est disponible. C'est aujourd'hui la première, le lait par exemple, c'est la première brique de lait vendue en France sans aucune publicité, donc on ne paye pas
ce qui fait
les tonnes
mal,
de publicité aussi de ces acteurs-là.
Et on a cédé. Exactement. C'est un patrimoine alimentaire, la volaille.
Mais on a cédé avec le TAFTA, avec le CETA, avec tous ces accords commerciaux qui mettent nos agriculteurs dans des situations très compliquées aussi.
Exactement. Le cours du jour.
Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, veut renforcer les compétences numériques des élèves et accélérer l'usage des outils informatiques à l'école, au collège et au lycée. Et ce, grâce à des mesures présentées ce matin, parmi elles, il n'y a pas que celle-là, mais parmi elles, comprendre et savoir utiliser les outils numériques, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la programmation, et accéder aux premières compétences de codage, ce sera à partir de la rentrée 2024.
Ah, je vous sens pas convaincu.
Oui, parce que quand Claude Allègre a dit c'est une priorité, il faut faire rentrer la tablette à l'école, il y a 20 ans, c'est génial. Catastrophe. Alors, est-ce que Pape Ndiaye veut réglementer ça, ou au contraire l'étendre et l'élargir? Moi, je crois que le numérique à l'école, c'est un outil aujourd'hui de notre civilisation, c'est incontournable. Mais dans la pédagogie et dans la transmission des savoirs et dans l'enseignement, je pense pas que la maîtrise des phénomènes numériques soit l'essentiel, vu l'état de scolarité des enfants et de l'école.
Ben, mais c'est notre société.
D'accord, mais à condition que ce soit pour un apport de rigueur et de qualité de savoir. Je suis pas sûr que ça soit ça la garantie.
Alors moi je suis complètement d'accord avec toi. On va peut-être déjà sécuriser les apports de base qui ne le sont pas aujourd'hui sur l'orthographe, sur les maths, etc. Ah oui. Et pourquoi pas le proposer plutôt au lycée en option par exemple,
oui.
Avec les options de première.
Apprendre à lire d'abord.
Que t'as déjà a priori un bagage et que là que tu le proposes pour des enfants, des élèves qui vont partir plus tard en informatique, je trouve ça super. Mais la plupart des gamins qui adorent le codage, ils attendent pas ça. Hein. Ils sont dans leur coin, ils sont sur Internet, ils sont déjà dessus.
De France, enfin, les gamins qui voilà. Ils n'attendent pas les cours
et
de
France. Oui, cette formidable école 42, qui est un peu partout, là, ce qu'on appelle la piscine de Xavier Niel, qui récupère tous les gamins qui veulent y aller, il n'y a pas besoin de diplôme, machin, mais qui ont envie d'apprendre à coder. Et c'est un truc de dingue. Moi, j'ai un neveu qui est là-dedans. Et voilà, mais c'est peut-être un peu tôt quand même.
On a fait des consommateurs, on a fait des futurs consommateurs des produits commerciaux numériques. Voilà.
C'est et de toute façon, ils seront consommateurs à un moment, ils ne pourront pas y échapper.
C'est peut-être pas au rôle de l'école de la République de leur apprendre.
Mais c'est leur donner les codes en fait. Peut-être
c'est trop tôt. Mais ils n'ont pas besoin de toi pour l'école.
Marché,
ils chopent ça à côté, les gamins, si vraiment ça les intéresse.
Non, pauvre ministre, il n'a pas de bol. Hein.
Oui, il n'est pas vernis, vous avez raison.
Je ne veux pas l'accabler, c'est pour ça.
Non. Bon. C'est la fin d'Estelle Midi. Merci beaucoup.